Toute cette semaine, Divergence vous propose de partir à la découverte du design. Nous sommes allés à la rencontre des designers montpelliérains dont la démarche nous emmène bien loin des pages de Elle Magazine, de Stark et de l'image que nous pouvons généralement nous faire de cette discipline. Ils se sont regroupés, pour la plupart, au sein d'Indigodoc, une association ayant pour but de promouvoir à Montpellier le design auprès du grand public. Dans ce deuxième volet, nous leur avons demandé de nous exposer leur méthodologie de travail. Bien plus proche des sciences humaines que l'on pourrait le penser, le designer observe, analyse et détaille nos pratiques quotidiennes. Une forme d'ethnographie au service d'un processus créatif. Youb Hubens, designer d'objets et lighting designer, cofondateur d'Indigodoc.
Un designer a une espèce des antennes. À des antennes, il y a une espèce de veille qui a dans lui. Voilà, il voit quelque chose, observe quelque chose en ville, ça lui interpelle, et après il y a la capacité de traduire ça dans un projet, la capacité de mettre ensemble les différentes informations. Et je pense que beaucoup de projets design naissent comme ça au début. On cueille toutes ces informations, mais c'est très. C'est pas scientifique. C'est très. Presque naturel, c'est très fluide.
Mais alors, plus concrètement, comment vous la nourrissez cette intuition?
J'imagine. Je pense que pour un designer, la ville est très importante. La ville avec toutes ces informations, mais aussi le contraste, voilà, justement, de la ville, de la nature, qu'est-ce que la nature me donne, qu'est-ce que la ville me donne. Et plus une ville est grande, plus il y a de différentes informations culturelles, artistiques, plus que, voilà, un designer est nourri, entre guillemets, automatiquement. Comme je dis souvent à mon fils aussi, c'est quand on a un manteau avec 40 poches qui sont remplies, on peut mélanger et combiner à l'infini. Si on a un peu de manteau avec 2 poches, ou 3, ça se finit rapidement. Donc c'est très important, comme je dis déjà à tous mes élèves dans les différentes écoles de design et d'université, il faut vraiment créer une base culturelle la plus large possible. Après, les expos, le cinéma, les livres, la danse, voilà, la musique, plus qu'on peut se nourrir, plus qu'on peut créer cette poche et la remplir, plus on a, on a la capacité de mettre ensemble des choses qui sont complètement inattendues. C'est évident qu'on a des collaborations très différentes, liées à la distance, liées à une logique avec une petite entreprise, on parle directement avec le patron, c'est un échange très continuatif et très direct et assez rapide en général aussi. Avec un Panasonic, il y a un intermédiaire, on se trouve par Skype, voilà. Et là, ça passe par tous les différents. Là, il y a une direction marketing, une direction commerciale, tout le monde doit dire quelque chose sur le projet. Donc, c'est tout un autre type de clients. Sinon, design d'espace, les clients, nos clients, peut être, dans mon cas, c'est une clinique maintenant. Sinon, de lighting design, donc c'est un promoteur. Le lighting design, c'est un groupe de théâtre. Lighting design, c'était des structures type, comme à Lyon, on a le Fête de Lumière. Bon, il y avait un truc similaire à Milan et à Naples. Donc voilà, on a des clients avec qui on collabore, très différents. Très très différent.
Maréva Faucheux, designer de service et chef de projet à l'agence de développement du Languedoc-Roussillon.
Les outils que l'on utilise au début dans le design, ça va être pas de limite. On va essayer donc de générer un maximum d'idées. même les plus inimaginables. Essayer de monter le plus haut possible pour après, on va dire, écrémer, tester et puis ne garder qu'une solution possible qui ne sera jamais la solution parce qu'il n'y a pas une solution, mais à ce moment-là, ce sera la solution la plus adaptée, la plus envisageable. Et puis peut-être que dans un an, ce sera autre chose.
Le design, en fait, quand vous en parlez, j'ai l'impression que c'est vraiment un pont entre l'humain et son environnement, en fait.
C'est exactement ça. C'est pour ça que, on parle de design de service et design centré usager.
Oui.
Ce serait même plus précis. Parce que l'usage, c'est-à-dire quel service et pour qui, donc cet usager, il est primordial dans tout le processus de conception. Alors, que va faire par exemple le designer? Si on parle maintenant de ce processus, au début, ce qu'un designer va faire, c'est il va faire de l'immersion, ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il va se rendre sur le site ou sur des sites et il va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors il va observer. On peut être un observateur, on va dire, distant, sans intervenir. Et puis on peut aussi être un observateur qui va discuter, qui va prendre des photos, qui va suivre, c'est-à-dire qui va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et on n'est jamais aussi dans une recherche quantitative, on ne va pas interroger des milliers de personnes, parce qu'on sait que, ça c'est plutôt de la sociologie, on sait...
Vous vous rapprochez par contre de l'ethnologie, qui est dans le qualitatif.
Voilà, du qualitatif, parce qu'on sait qu'en interrogeant 10-15 personnes, on aura... Les points forts qui vont émerger, on aura déjà des pistes et c'est ça l'intérêt. Alors on va s'aider aussi évidemment de documents, de littérature, on va rechercher aussi d'autres cas. L'idée c'est on ne recherche pas déjà la solution. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans un processus linéaire. On se dit, on part de là et puis je dois arriver là. Donc là, tout l'enjeu au départ, là, c'est même avant l'immersion, ça va être de discuter avec le commanditaire et puis de voir avec lui l'opportunité de sa solution ou en tout cas de ce qu'il imagine être la solution. Donc c'est de discuter et puis on peut l'amener donc à interroger justement cette solution et à écrire un autre cahier des charges, mais surtout on s'octroie le droit à l'erreur, on s'octroie le laisser erreur. Donc on va avancer un peu, on va tout de suite essayer de concevoir en mettant en place des prototypes très légers, en carton, en fil de fer, avec un montage photo, des trucs très rapides pour qu'on comprenne en fait.
C'est la dimension bricoleur du design, c'est
voilà, ça. Voilà, c'est ça. Ça coûte pas cher, donc il faut mieux ne pas s'en passer. Et on peut tout de suite avoir des réactions. Et on se dit, si la réaction n'est pas bonne, c'est pas la peine de continuer. Et hop, on rebrouche chemin et puis on tente autre chose, on remonte à l'atelier, etc. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que c'est nouveau aussi l'idée que on admette l'erreur dans le processus et que l'erreur n'est pas une forme d'échec.
Samuel Adden, chercheur, plasticien et designer, concepteur entre autres d'une enceinte tactile.
Je travaille pas mal avec de plus en plus dans un réseau de recherche.
Donc là, avec des neurologues et d'autres chercheurs qui me permettent de faire avancer cette recherche. Et avec ma mère, entre autres, qui est chercheuse en didactique des langues. Et d'accord. Moi, je travaille depuis une dizaine d'années sur la musique. J'ouvre sur le son abstrait musical. J'ouvre sur le son langagier.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager des expériences. C'est pas de savoir précisément ce que t'as ressenti.
Oui.
C'est pas que je m'en fous, c'est que ça m'intéresse, je suis hyper content. C'est cool. Mais c'est ton truc à toi. Et chacun va percevoir différemment en fonction de son éducation, sa culture, son passé, ses expériences vécues passées. Parce que bizarrement, c'est pas du tout un phénomène, même si on le connaît, le phénomène de conduction osseuse, même si on connaît avec notre connaissance, tu vois, on sait ce que ça veut dire, ça veut pas forcément dire qu'on en a fait l'expérience. Et oui, la plupart du temps, et puis même pour des gens qui ont déjà expérimenté ça, moi ça fait une dizaine d'années que je travaille là-dessus, chaque fois que j'ai un nouveau prototype, je redécouvre le truc en me disant « Ouais, c'est quand même trop bizarre, mais c'est cool. »
Est-ce qu'un designer peut travailler seul, par exemple ?
Oui, non. Enfin, c'est fondamental, mais comme dans tous les métiers. Mais je pense que sans les autres, on est personne et on se fait chier. Et le fait d'être confronté aux autres, ça nous élève de manière générale. Alors moi, je travaille tout le temps en collaboration et en même temps tout le temps tout seul. Alors c'est très paradoxal, mais mon quotidien, il est très solitaire, très silencieux. Mais tout ce que je le développe en permanence, connecté au moins avec une personne. Dans la conception ou la fabrication. Mais dans le résultat, encore plus. Je suis connecté à l'humanité, quoi. même pas forcément qu'à des gens ici qui vivent dans notre présent. Je me dis, des fois j'ai l'impression de me dire, ah, je fais des choses pour des gens passés, pour des gens futurs. Enfin, tu vois, je suis pas... même si je peux passer beaucoup de temps seul sur le travail de conception pure, je suis jamais seul. Enfin, t'es toujours... Vu que tu travailles toujours pour quelqu'un, ou t'as toujours comme perspective de te dire, ah, je vais... je fais cette pièce-là pour ce truc-là, je fais ce truc-là pour... dans l'objectif de ça. Ouais, t'es jamais seul. Je fabrique aussi pas mal, j'aime bien faire mes prototypes, ou en tout cas, faire tout ce que je peux faire avec mes mains, je le fais. Tout ce que je peux pas faire avec mes mains, je le délègue à quelqu'un qui devient du coup un collaborateur, parce qu'on travaille en quatre mains sur un truc, ou en mille mains s'il y a plein de gens, quoi.
J'ai rencontré pas mal de designers, du coup, qui me parlaient de la méthodologie, de leur collaboration, dans le sens où on leur passe des commandes avec des cahiers des charges qui doivent bousculer ou non. Toi, du coup, tu travailles pas sur commande.
Non, moi j'ai une profil
les trucs, de
ouais.
Chercheur.
Ouais, je. Bah alors après, c'est comme. Je pense que c'est comme dans tout, quand tu commences à développer un truc, là, moi je suis sur une sorte de niche, quoi, ça c'est clair. Et maintenant, on commence à venir me chercher pour ce que j'ai déjà fait. Mais c'est quand même rare, parce que c'est des projets qui coûtent beaucoup d'argent, qui sont assez conséquents, et je pense que il n'y a pas. Que la livraison de l'objet définitif qui est intéressante pour moi, le travail de designer, c'est de concevoir toute la mise en scène d'un atelier, par exemple, pour utiliser ça. Que je sois dans une logique d'éveil musical ou d'éveil aux langues, quand on est en face d'une typologie d'objets qu'on ne connaît pas, l'importance du mode d'emploi est monumentale. Parce que sinon, tu retournes dans tous les sens et tu le jettes à la poubelle.
Nathalie Pruneau, designer graphique, cofondatrice d'Indigo Doc.
Moi, je travaille beaucoup à partir de photos. Souvent, moi, je travaille aussi la rédaction des messages. Je trouve qu'ils sont importants aussi de bien les formuler pour que ce soit efficace et assez percutant, dynamique. En fait, la moitié du travail, elle se fait dans la relation à la personne, dans l'écoute, la compréhension de ce qu'est la personne, mais aussi ce qu'est la structure, parce qu'en général, c'est rarement une personne. Enfin, on peut travailler pour des particuliers, mais c'est assez rare. Ce qui est important, en fait, c'est aussi de comprendre la personne qui nous a appelé ou qu'on va avoir en direct, c'est de savoir qui elle est dans la structure auquel elle appartient, en fait, pour savoir si elle est décisionnaire ou pas décisionnaire. Et puis, c'est effectivement la qualité de rapport, de confiance Parce que ça, c'est hyper important, en fait. Pourquoi ils viennent nous chercher, nous, et pas quelqu'un d'autre? Parce qu'on est nombreux sur le marché. Donc ça, c'est important, et c'est souvent... on tisse des relations souvent à long terme, en fait. Tout le monde a un avis sur l'aspect visuel des choses, pour moi. Hein. Ne serait-ce que, même si dans leur boulot, ils n'ont pas amené à ça, personnellement, ils ont forcément un avis sur les couleurs, j'aime pas, est-ce qu'on pourrait faire ça plus gros, plus petit, enfin, forcément. Et donc, moi, mon travail, c'est aussi de réveiller ça aussi chez les gens, en fait. Dès qu'on touche à la sensibilité, il y a une part de subjectivité, donc même si nous, on vient avec du jaune fluo, si la personne, elle est allergique au jaune, ça va être très compliqué quand même de faire passer les choses. Donc, on est sans arrêt, en fait, on fait des allers-retours comme ça avec la personne qu'on a en face. Et on ajuste le projet comme ça. Alors, ce sont des concessions d'une part et de l'autre à faire ou pas. Moi, j'ai vu vraiment la transition des choses. Mais en tant que professionnelle, j'ai toujours travaillé sur l'ordinateur. Ce qui a évolué, c'est les machines, mais les logiciels sont toujours les mêmes. Après, c'est plutôt sur la fabrication, les méthodes d'impression ont changé. Ont un peu évolué, on va dire, mais pour nous, ça n'a pas énormément changé. Si ce n'est que nous, on a été obligés d'apprendre plus de choses. C'est-à-dire, on ne fait pas que de la création, on est obligé de faire tout le travail de préparation des fichiers pour l'impression. Et avant ça, c'était vraiment des métiers de l'imprimerie. Et nous, effectivement, on a été obligés de s'adapter à ça au fur et à mesure. Mais sinon, à part si on fait du site internet, on est obligé de se former sur ça. Moi, je trouve que voilà, quand on fait du print, ça n'a pas énormément changé. Bon, il n'y a qu'aujourd'hui, et ça, je trouve que c'est une bonne chose, c'est qu'on revient à des méthodes anciennes d'impression, qui est la sérigraphie. Pardon. On revient à des méthodes plus artisanales, et ça, au début de ma carrière, de petite carrière, c'était pas très développé. Nous, on avait fait la sérigraphie à l'école, mais c'était vraiment artisanal.
Thibaut Desombres, président d'Indigodoc, designer spécialisé dans le mobilier et l'ensemble des objets liés à l'habitat.
Quand on est avec une boîte, elle tente d'exprimer, avec l'aide de ses marketing, ses besoins, de façon très précise ou plus large, mais parfois ça nous fait un petit peu sourire. Parce que finalement, on pourrait dire que le cahier des charges, ce terme-là, c'est une tentative de préciser de façon la plus nette possible le besoin. Et ça, c'est l'entreprise qui va essayer de le préciser pour nous le dire. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est bien pour ça qu'ils font appel à nous. Donc on développe quelque part une capacité à lire en diagonale les cahiers des charges qui sont nécessaires pour autant. Mais finalement, on constate qu'on a développé assez vite une lecture des besoins, une compréhension de l'entreprise par les visuels, etc.
Ça arrive régulièrement, justement, que vous bousculiez complètement le cahier des charges ?
Ça arrive, oui. Ça arrive parce que, finalement, en filigrane, on se rend compte que ils n'osent pas le demander, mais c'est ce qu'ils attendent un peu. Alors, il faut le faire de façon intelligente, et il ne s'agit pas de le faire pour le faire. Il y a des moments où leur demande, elle est assez simple, et à la fois assez logique. Mais il y a parfois des demandes où on se rend bien compte que ça tape à côté. Et ça, comment ça se fait qu'on s'en rend compte ? Parce que finalement, on pourrait peut-être tout simplement dire qu'on est à l'abri du quotidien des entreprises dans leur rôle, dans leurs difficultés, dans leurs objectifs. C'est-à-dire que quelque part, un peu de façon crue, ils ont le nez dans le guidon. Et notre profil les intéresse parce que justement transversal dans la réflexion, et puis parce que finalement notre première base de données, elle est dehors, elle est partout. Ça peut être une manière aux gens de circuler dans un jardin public en passant par un plateau télé, comment c'est foutu, une mauvaise série, ou en passant par une musique. C'est tous ces éléments-là qui construisent, qui nourrissent notre observation. Et c'est ça qui nous sert pour avancer. Plus que de dessiner quelque chose, c'est pas une forme qui domine, c'est quelle est la meilleure réponse. Si je vous dis par exemple que quand je travaille dans la cuisine, c'est un sujet qui est extrêmement large, dans le sens que c'est du spatial, c'est presque de l'architecture intérieure, et ça va jusqu'au détail de l'usage à pousser à son extrême, où j'adore faire Jacques Tati, m'imaginer les mains pleines de farine, ou les copains déboulant au dernier moment dans cet espace. C'est tous ces éléments-là qui nous permettent de dire, bien, on va organiser les choses de telle façon, plutôt que de dire, on va faire une façade qui sera bleue à pois verts et une poignée machin. Souvent, c'est comme ça que qu'est pensé le monde du design. Mais j'ai envie tout simplement de dire, oui, mais avant tous ces choix de couleurs qui sont finalement un peu les tendances, les modes, il y a toute cette réflexion en amont. Alors, suivant les données, après, par exemple, en travaillant un projet chez Baccarat, la problématique ne sera pas du tout la même. Elle sera tout simplement de mettre en valeur un formidable savoir-faire, toute une histoire. Donc là, ça va être un travail de forme de recul, d'humilité, d'effacement du designer, ou presque, parce que Stark, ce n'est pas son cas, mais pour pouvoir essayer de comprendre et porter au mieux cette formidable histoire, ces savoir-faire, cette maîtrise, c'est tout ça.
On a une image très élitiste du design, j'ai l'impression. Ouais. Enfin, le grand public a une image très élitiste du design. En fait, vous vous inscrivez vraiment dans le quotidien quand vous parlez de la chaise à 10 euros ou du...
Mais oui, mais je pense que je ne suis pas du tout le seul. On a tous cette quête, à un moment, d'avoir à réfléchir sur quelque chose qui va être proposé au plus grand nombre. Maintenant, certes, c'est perçu comme élitiste. Pourquoi ? Ben, c'est aussi un peu la manière dont on parle, dont les médias parlent du design. On oublie souvent que de dire que IKEA, c'est un des plus grands ambassadeurs du design. On va plutôt penser, il est dans son marché, il est sur son niveau de marché, RBC, qui représente des grandes marques italiennes qui sont absolument sublimes, mais on est dans la crème haute, dans le marché haut, comme il y avait toujours eu, comme dans la voiture, comme partout, il y a des marchés à des strates différentes. Aujourd'hui, on peut travailler sur des choses infimes, petites, d'une discrétion, sans que pour autant le nom du designer soit cité. Parce que ça, c'est une stratégie de valeur ajoutée.
Merci à Thibaut Dezongre, Mareva Faucheux, Youb Hubens, Nathalie Pruneau et Samuel Aden. Demain, pour le troisième volet de notre série spéciale design, nous évoquerons le rapport entre l'art et le design.